Se sentir bien au travail commence par se sentir bien avec soi. Bienvenue dans Meilleur Allié, je m'appelle Marie Legac, je suis coach professionnelle certifiée et j'aspire moi aussi à aimer mes journées de travail autant que ma vie à côté. Ici, je vous parle de mes outils et découvertes pour vous aider à concilier travail, sens et plaisir grâce à une relation complice et profonde avec vous-même. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois de pause sur le podcast. Cette pause a été l'occasion de plonger dans ma nouvelle vie de maman, puis de reprendre progressivement mes accompagnements de coaching et de bilan de compétences. J'ai aussi lancé un nouveau projet de chronique qui est un format écrit que j'aime beaucoup, où je vous raconte des histoires vraies de ma vie professionnelle pour en tirer des apprentissages. Vous pouvez vous y abonner gratuitement, c'est comme une newsletter, et je vous mets le lien en description. Et en parallèle de ça, je développe aussi un futur accompagnement de coaching pour les personnes qui ont choisi un nouveau job pour mieux coller à leurs aspirations et qui sont dans leur première année. Donc il arrivera bientôt dans sa version test, et si vous avez envie de suivre ça, rendez-vous dans les notes du podcast. Mais aujourd'hui, retour donc sur le podcast avec l'épisode 19. Comment prendre du recul ? Si vous vous posez cette question, a priori, c'est que vous pensez que vous avez tendance à en manquer. Vous avez peut-être remarqué que vous avez des actions ou des réactions impulsives que vous regrettez après coup. Peut-être que vous prenez aussi les choses trop à cœur et que vos émotions, dans certaines situations, sont très intenses, voire désagréables à vivre. Peut-être que votre manque de recul affecte parfois la qualité de vos relations et ou que vous ressentez de la confusion au moment de prendre une décision ou de définir des priorités. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, j'ai imaginé cet épisode pour vous. Cet épisode compte particulièrement pour moi car je suis convaincue que prendre du recul est une compétence et une compétence essentielle. C'est même un aller direct pour entretenir des relations saines et constructives avec soi et avec les autres. Ça nous aide aussi à agir pour ce qui compte vraiment pour soi et à être la personne que l'on a vraiment envie d'être au travail comme dans la vie. En préparant cet épisode, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de choses à dire et d'outils à vous partager. J'ai donc fait un effort particulier pour structurer mes idées, de manière à vous garder avec moi jusqu'au bout. Et avant de faire ça, j'ai besoin de passer par une étape essentielle qui est de bien clarifier ce qu'est le manque de recul, à quoi on le reconnaît et pourquoi c'est si difficile d'en avoir, d'autant plus dans la vie professionnelle. C'est parti! Alors, de manière générale, manquer de recul revient à dire que l'on ne voit pas la situation dans son entière réalité. On a comme le nez collé sur le tableau. Donc on voit très bien la partie devant son nez, mais pas du tout le contexte ni la vision d'ensemble. Donc quand on a un problème, on ne voit que ce problème. De manière très concrète, dans l'idée de recul, il y a la notion d'espacement, de distance, de proximité ou de distance physique. Et quand on manque de recul, on est très proche. On est tellement collé à ce que l'on regarde que l'on voit les choses plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Elles prennent tout notre champ de vision et donc tout notre espace mental. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple. Quand on fait une rayure sur sa voiture et qu'on s'approche de très près pour constater les dégâts, la rayure semble de plus en plus grande. Et en reculant de plusieurs pas, elle devient un petit point. Ça symbolise exactement la nécessité de prendre de la distance pour changer notre perception. Et c'est pour ça qu'on a comme synonyme de prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre de la distance, faire un pas de côté ou encore changer de perspective. Mais cette distance n'est pas seulement physique, ce serait trop facile, elle est aussi émotionnelle. Prendre du recul implique de défusionner la situation que l'on vit, des émotions internes que l'on ressent, pour la voir avec plus de neutralité. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que lorsqu'on manque de recul, on a justement du mal à s'en rendre compte. Donc pour développer consciemment votre capacité à prendre du recul, il faut déjà être consciente que vous en manquez. Et donc c'est pour ça qu'on va voir à quoi ça ressemble concrètement quand c'est le cas. Déjà, le manque de recul, ça se vit intérieurement, mais ça se voit aussi assez facilement depuis l'extérieur. Alors, à quoi est-ce qu'on va reconnaître le manque de recul chez quelqu'un ? En gros, c'est quand on observe une personne en se disant qu'elle a la tête dans le guidon. Elle est très concentrée sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle vit. Elle a souvent un débit de parole très saccadé, elle est obnubilée par son sujet d'attention. Elle ne parle que de ça, les idées s'enchaînent, le corps va être engagé, animé. Il y a peut-être parfois un rythme cardiaque qui s'accélère, des joues qui rougissent un peu, des gestes rapides. Et on va avoir un sentiment d'urgence quand on regarde cette personne, comme si elle était très pressée, très agitée. À l'inverse, une personne qui a pris du recul aura une attitude plus détendue, un débit de parole posé, un rythme cardiaque ralenti et une clarté d'esprit. Donc, quand vous reconnaissez les signaux de la tête dans le guidon, vous saurez que c'est le bon moment pour activer les leviers de prise de recul que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour vous donner toutes les ressources concrètes que j'utilise pour prendre du recul, il y en a au moins une douzaine, j'ai décidé de les organiser en 5 leviers. Vous allez vraiment être équipés. Donc ces leviers ne sortent pas de mon chapeau ni d'un livre théorique, je les sors directement de ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne et chez moi qui suis ma première cliente. Alors le point commun qui relie les leviers que je vais vous présenter, c'est la nécessité de faire une pause pour observer, faire le tri et réfléchir un instant. Parce que la prise de recul est étroitement liée à la notion de temps. Lorsque l'on en manque, on ressent une urgence qui nous empêche de voir les choses avec distance. On a alors une urgence à agir, à réagir ou à répondre. Et donc pourquoi est-ce que c'est si difficile de marquer ce temps de pause, surtout au travail ? Eh bien, dans le monde professionnel, le manque de recul et les réactions impulsives sont assez fréquents à cause de plusieurs facteurs. Déjà, il y a le temps de réflexion, qui est un temps qui est souvent moins valorisé que le temps de l'action. Et ça, c'est fortement lié à l'injonction de productivité. Ensuite, pour voir une situation dans son ensemble, ça nécessite de considérer plusieurs perspectives, ce qui peut être complexe dans un environnement où les interactions avec les autres sont limitées. C'est notamment le cas quand on travaille en silo, dans des services qui ont très peu d'échanges, que ce soit de manière formelle ou informelle. Quand il y a aussi trop de personnes impliquées dans un projet, quand l'organisation de l'entreprise est complexe à comprendre. Ensuite, il y a aussi l'évolution rapide de notre monde actuel. Je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme VUCA, qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc dans ce monde-là, ça rend la prise de recul beaucoup plus difficile. Et enfin, la vie émotionnelle est souvent considérée comme hors sujet au travail et comme un signe de faiblesse. Et donc, tant qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce que nos émotions ont d'intéressant à nous dire, on les réprime, elles gonflent comme des cocottes minutes et on alimente notre manque de recul. Donc, comment est-ce qu'on va aller résoudre ce problème ? Eh bien, déjà, on va s'autoriser à faire cette pause. Et donc, qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette pause ? On va venir créer un espace nécessaire au recul, puisque c'est la clé centrale de se tourner vers sa vie intérieure. Le concept de vie intérieure, je l'emprunte à Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Et dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », il parle de cet espace qui existe entre les circonstances que l'on vit et notre manière d'y répondre. Il explique qu'entre le stimulus, donc la circonstance extérieure, et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Donc on va voir comment observer nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles va nous permettre de choisir de manière consciente notre réponse et nos actions. L'idée à retenir ici, c'est que s'observer, c'est mettre à l'arrêt notre pilote automatique et enclencher le mode conscient, le mode où l'on est aux commandes. Je vais donc vous faire découvrir les différentes pistes et outils que j'ai à vous proposer pour vous aider à prendre du recul. Et je vais commencer par le premier pilier qui consiste à prendre une distance physique. Pour pouvoir prendre une distance physique, ce que vous pouvez faire en premier lieu, c'est déjà vous retirer physiquement de la situation qui vous pose problème. Ça peut être de quitter temporairement la pièce, de sortir prendre l'air, de faire le tour du pâté de maison, du quartier, et de vous éloigner du lieu où se déroule l'événement qui vous génère beaucoup d'émotions, pour avoir un moment seul et arrêter les sollicitations. C'est particulièrement judicieux de le faire dans des situations de discussion qui s'enveniment, ou dans des moments d'échange où on perd de vue l'objectif, où on tourne en rond, tout simplement parce qu'on n'a plus le recul nécessaire pour trouver des solutions constructives pour terminer cette discussion, terminer cet échange. Et on n'a pas forcément le réflexe de s'extraire de la situation parce qu'on a envie de trouver une solution rapidement. Alors que justement, c'est dans ces moments-là qu'on a peut-être besoin d'aller s'aérer l'esprit et revenir dans l'échange avec plus de sérénité et plus de clarté et de prise de recul. La deuxième piste, ça va être de vous créer une bulle, c'est-à-dire de vous déplacer dans un endroit qui est calme, apaisant et qui va vous permettre de vous recentrer et de réfléchir à la situation sans perturbation extérieure. Et donc ça, vous pouvez très bien le faire en vous installant dans une pièce de votre maison où vous pouvez être au calme, réfléchir tranquillement, en silence. Ça peut être aussi de vous créer une bulle en mettant vos écouteurs, en écoutant une musique apaisante. Voilà, à vous de voir ce que ça représente pour vous de vous créer une bulle. En tout cas, l'idée, c'est que ce soit une bulle réconfortante, une bulle de douceur, en tout cas une bulle qui vous permette de couper avec la situation qui vous crée ce manque de recul. Troisième piste, un retrait physique qui va être un peu plus long, notamment si votre agitation mentale et vos émotions sont très intenses et qu'elles sont relativement répétitives et donc vous êtes dans une période en fait d'intensité assez importante. Et donc ce retrait physique peut devenir très concrètement une période de vacances, un week-end, une escapade qui va simplement vous sortir, vous extraire de ce quotidien dans lequel vous avez la tête dans le guidon. Et l'important, c'est de vous donner la possibilité de changer d'environnement pendant un temps plus ou moins long. Je passe maintenant au deuxième pilier qui est de prendre de la distance avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dans le podcast, vous avez l'habitude que je parle assez souvent de cette piste-là. Donc je vais résumer certains points peut-être que vous avez déjà entendus. Le premier point, ça va être d'observer ses pensées. Et ça va se faire notamment par le flot de pensées, qu'il soit écrit ou vocal, qui consiste à exprimer ce qu'on a à l'intérieur de sa tête, toutes les pensées qui s'agitent, de manière à en prendre conscience, à les sortir de soi et à les regarder de manière plus distancée en les observant sur le papier notamment. Donc ça va passer par l'écriture qu'on appelle l'écriture expressive. Une autre manière d'observer ses pensées, d'en prendre conscience, ça va être de passer par la méditation. Donc cette pratique qui consiste non pas à ne plus penser, mais qui consiste à voir ses pensées défiler sans s'y attacher, sans se perdre dans le flot des pensées, simplement en ayant conscience qu'elles sont là, en essayant de les laisser s'éloigner pour prendre davantage de distance avec elles. Et en tout cas, éviter de fusionner avec. Vous pouvez aussi réaliser un modèle CPEAR, modèle dont je vous parle dans l'épisode 5 du podcast, qui consiste à faire le point, en tout cas distinguer ce qui est de l'ordre des circonstances, des pensées, des émotions, des actions et du résultat que vous voulez créer pour vous. Et donc faire ce travail-là, c'est un réel travail de distanciation avec la situation que vous vivez. Et enfin, toujours pour observer vos pensées et les verbaliser, vous pouvez les verbaliser à une autre personne, une personne de confiance, une personne avec qui vous vous sentirez écouté et non jugé, de manière à exprimer librement ce que vous avez en tête dans cet espace de confiance créé avec cette personne. Autre piste pour prendre de la distance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va être d'observer vos sensations corporelle, puisque quand on a un manque de recul, souvent c'est parce qu'on a toute son attention qui est orientée vers les pensées, vers le mental. On se coupe de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire un scan corporel qui va consister à balayer votre corps, les différentes zones de votre corps, en essayant de vous connecter à ce que vous ressentez, à identifier quelles zones sont tendues, sont relâchées, sont fatiguées, et tous les endroits où vous avez peut-être des sensations désagréables, que ce soit de tension, d'irritation, de rétractation, puisque comme vous le savez peut-être, nos émotions se traduisent par des sensations physiques, et donc vos sensations vont vous aider à mettre le doigt sur ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir aussi observer votre niveau d'énergie, votre niveau de fatigue, qui sont de bons indicateurs aussi de la prise de recul que vous avez sur le moment ou que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez plus, notamment quand on est particulièrement fatigué. Et enfin pour les femmes, je vous invite aussi à observer la période du cycle menstruel dans laquelle vous êtes. Pour moi, ça a été vraiment une révélation de faire attention à cet indicateur-là de mon corps. Et je vous conseille notamment le livre qui s'appelle « Kiffe ton cycle » de Gaëlle Baldassari, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Mais voilà, il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau de nos hormones qui peut être intéressant à prendre en compte, notamment pour voir comment ces manifestations corporelles, tout ce qui va être de l'ordre de notre rythme biologique, influence notre état d'esprit mental. Voilà, donc vous pouvez aussi prendre conscience de cet aspect-là de votre personne. Et puis, pour toujours continuer à mettre de la distance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, un exercice que je trouve essentiel, c'est de mettre des mots sur ces émotions. Pas juste se dire « je me sens bien, je me sens mal », mais réellement affûter votre vocabulaire émotionnel et prendre conscience qu'il y a des nuances dans les émotions. Par exemple, on n'est pas juste triste, on peut être parfois déçu, on peut être effondré. Voilà, on n'est vraiment pas sur le même degré d'intensité. Et pour prendre de la distance avec ses émotions, c'est un très bon réflexe que d'aller identifier quelle est l'intensité, quelle est la nuance d'émotion que vous ressentez précisément. Ces pratiques-là que je vous propose, vous pouvez les glisser assez facilement dans votre quotidien. C'est-à-dire que se connecter à son corps, observer ses pensées et mettre des mots sur ses émotions, c'est des choses que l'on peut faire même en conduisant, en étant dans les transports, en arrivant chez soi, en prenant un petit sas de décompression avant d'aller tout déverser directement sur son conjoint, notamment en écrivant ou en prenant un peu de temps de respiration dans une pièce de votre appartement ou maison. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi entre deux réunions ou entre deux patients. Voilà, simplement il faut décider de prendre ces quelques minutes pour faire l'une de ces choses que je vous ai proposées. Je passe maintenant au troisième pilier qui consiste à prendre de la distance avec la vie des autres. Ça, c'est important parce que beaucoup de moments de perte de recul sont liés à ce qui va se passer dans nos relations aux autres. Par exemple, si ce matin, votre collègue vous a à peine adressé la parole quand vous vous êtes croisés, vous allez peut-être le prendre pour vous en vous disant qu'il vous en veut, qu'il ne vous aime pas, que vous ne l'intéressez pas. Et peut-être même que vous allez le juger en vous disant « Ah bah il est mal poli, il vient me parler que quand il a besoin de quelque chose, il est lunatique. » Et c'est quelque chose que vous allez peut-être avoir tendance à ruminer, qui n'est pas forcément ce qu'on appelle la prise de recul. Donc c'est un exemple de manque de recul, en tout cas dans la mesure où l'on regarde la situation uniquement à travers son propre prisme, comme si la raison pour laquelle ce collègue se comporte ainsi avait forcément à voir avec soi. Comme si on était finalement le personnage principal de l'histoire de l'autre. Ça reviendrait à dire, si je prends une métaphore, quelque chose de beaucoup plus imagé, que quand il y a un cube multicolore posé sur une table, et qu'il y a des personnes autour de cette table, et que nous, on a face à soi uniquement la face bleue, et qu'on pense alors que le carré et le cube est bleu pour tout le monde, eh bien, on se trompe. Parce qu'on ne voit pas les autres faces du cube multicolore. Et donc, on peut en déduire que le cube est bleu pour tout le monde, que notre vérité est la vérité des autres. Alors qu'en réalité, quand on fait le tour de la table et qu'on s'intéresse à la réalité des autres, on peut comprendre que le cube a plus de facettes, plus de couleurs que l'on ne pensait au départ et que le bleu, c'est le bleu pour soi. Et donc, là où je veux en venir, c'est que prendre de la distance avec la vie des autres, ça va passer par explorer volontairement d'autres points de vue. Comment on peut faire ça? Les pistes que j'identifie, ça va être notamment d'adapter un exercice qui s'appelle les chapeaux de Bono, que vous connaissez peut-être. C'est un exercice qui consiste à aborder un problème sous différents points de vue. Et chaque chapeau représente une manière différente de penser ou d'analyser la situation. Par exemple, le point de vue de la peur, le point de vue de la créativité, le point de vue des solutions, etc. Ça, c'est comment l'exercice fonctionne. Là, je vous propose de l'adapter en prenant la place de différentes personnes autour de vous. Si, par exemple, vous venez de présenter un projet pour lequel vous êtes énormément investi et qu'il y a un participant qui a émis une critique sur une partie de votre projet, eh bien, au lieu de passer tout votre temps à vous remettre en question, à ruminer sur cette seule critique, vous pouvez décider d'adopter différentes perspectives, donc différentes casquettes. Ça va être par exemple la casquette de votre chef. Comment est-ce que lui, il voit ce que vous avez présenté, ce que vous avez décidé, quel est son point de vue extérieur, de supérieur, hiérarchique. Ensuite, quel va être le point de vue des autres participants à cette présentation? Est-ce que vous avez eu d'autres retours? Qu'est-ce qui a été dit aussi de positif? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme point de vue quand vous avez présenté ce que vous avez présenté, etc. Vous pouvez aussi prendre le point de vue d'un mentor qui vous inspire ou d'une personne en tout cas que vous admirez et vous demander, bah voilà, que ferait-elle à ma place dans cette situation? Comment considérerait-elle ce que je vois aujourd'hui comme un problème? Et puis vous pouvez aussi vous poser d'autres questions avec d'autres casquettes, par exemple le client final. Que penserait-il ce client de mon projet? Si c'était lui qui avait assisté à la présentation, qu'est-ce qu'il aurait compris, pensé d'autre de la situation? Et donc en essayant de vous mettre dans les baskets de différentes personnes avec des points de vue différents, vous allez pouvoir faire cet exercice de prise de hauteur sur la situation et vous allez pouvoir aborder la critique que vous avez reçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une critique d'une seule personne que vous pouvez choisir de prendre en considération ou pas. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour envisager les raisons des actions des autres. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous êtes en train d'interpréter ou de juger une action de quelqu'un d'autre et que ça monopolise beaucoup de votre attention, que vous ruminez beaucoup par rapport à ça, voire que vous dramatisez, que vous êtes susceptible, que vous le prenez personnellement, donc on a là tous les signaux de la perte de recul. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller imaginer toutes les autres raisons, de la plus réaliste à la plus farfelue, qui pourraient expliquer que telle personne s'est comportée ainsi. Donc, si je reprends l'exemple du collègue qui n'a pas dit bonjour, on pourrait peut-être imaginer qu'il ne vous avait pas vu, ou qu'il était absorbé complètement par une dispute avec sa femme, ou qu'il est aphone parce qu'il a perdu sa voix suite à une maladie. Ou alors, on pourrait imaginer qu'il vous a dit bonjour, mais simplement, vous ne l'avez pas entendu. Imaginez un peu toutes les autres bonnes raisons qui pourraient expliquer que cette personne avait d'autres sujets en tête que de vous dire bonjour, et surtout, quelles pourraient être les raisons qui font que ça n'a rien à voir avec vous remettre en question. Une autre piste que je vous propose, qui va vous permettre de prendre de la distance avec ce que vous percevez des autres, ça va être de vous intéresser à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'interpréter, de juger, de vous raconter une histoire autour de ce que l'autre a dit ou a laissé entendre ou a l'air de vouloir dire ou a l'air de penser, ce que je vous propose, c'est d'aller clarifier directement auprès de la personne ce qu'elle a en tête. Si par exemple une personne vous dit tiens, je remarque que t'as beaucoup changé, et ben en fait peut-être qu'une partie de vous va se dire est-ce que c'est mal, mince, est-ce qu'elle ne me reconnaît plus, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et peut-être qu'en fait cette personne, ce qu'elle veut dire, c'est que vous avez changé en bien, mais ça vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas clarifié avec elle en lui demandant mais qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce que tu as remarqué qui avait changé chez moi, voilà, d'aller vraiment la faire spécifier son point de vue. Je passe maintenant à un autre pilier qui est pour moi très parlant aussi, qui va certainement pouvoir vous aider, c'est le fait de prendre de la distance sur les enjeux. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a des enjeux cachés dont on n'a pas forcément conscience et qui sont à l'origine de notre perte de recul. Par exemple, imaginons une personne qui travaille dans la vente. Et lorsqu'un de ses clients historiques décide de ne pas renouveler son contrat, elle se retrouve profondément attristée, voire en colère, et cela occupe toutes ses pensées, l'empêchant de passer à autre chose. Seulement voilà, c'est en prenant du recul qu'elle réalise que ce contrat qui n'a pas été renouvelé affecte en réalité son objectif annuel, et donc sa prime, et donc son projet de vacances en famille à la mer, et donc ses ambitions parentales. Et cette prise de conscience va l'amener à comprendre qu'elle avait créé un lien de corrélation entre ses objectifs de vente et ses ambitions, ses aspirations parentales, ce qui va lui créer une forte pression. Et voyant ça, elle va pouvoir alors explorer comment elle peut quand même être un super parent sans que cela ne dépende de l'argent qu'elle va pouvoir dépenser pour des vacances et donc comment elle va pouvoir concilier son rôle parental et ses objectifs professionnels. Et en faisant ça, en prenant conscience de tous ces wagons qui s'étaient enchaînés et raccrochés entre eux, elle va pouvoir éviter de charger ses clients avec le poids de son bonheur familial. En fait, c'est quelque chose que l'on fait souvent. Parfois, on se dit « Mais pourquoi la personne réagit au quart de tour? Pourquoi est-ce que je m'énerve ainsi ?» Et bien souvent, c'est parce qu'on pense que ce qui est en train de se passer, ça va avoir des conséquences sur autre chose qui est important pour soi, sans qu'on ait réellement réussi à mettre le doigt dessus. Ce que vous pouvez faire pour prendre conscience de ces enjeux cachés, c'est d'aller tirer le fil et en vous demandant « Ok, pourquoi est-ce que ce qui se passe là, ça m'énerve? Pourquoi est-ce que ça, c'est important pour moi ?» Et re-questionner encore. Et ça, qu'est-ce que ça voudra dire ensuite? Quelle va être la conséquence de ça d'après moi? D'aller vraiment gratter sous la surface ce qui se passe pour vous en profondeur. Donc vous pouvez bien sûr vous auto-questionner, voir ce qu'il en ressort. Et étant donné que ces enjeux sont souvent cachés, donc inconscients, on peut avoir besoin d'une aide extérieure pour les mettre à jour. Et c'est notamment ce qu'on fait souvent dans le cadre du coaching. L'autre pilier que vous pouvez explorer, c'est le dernier que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, consiste à prendre de la distance temporelle. En prenant cette distance temporelle, vous allez pouvoir prendre une décision plus réfléchie et moins influencée par l'urgence du moment. Voici quelques pistes pour faire ça. La première, déjà, vous pouvez différer votre réponse. C'est-à-dire que si l'on vous pose une question, vous fait une proposition, peut-être que vous allez vous sentir dans l'urgence de répondre rapidement, mais sachez que bien souvent, on a la possibilité de demander un délai en demandant « est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard ? J'y réfléchis et je reviens vers toi. » Voilà, parfois c'est un réflexe qu'on n'a pas, qu'on oublie. On oublie cette possibilité. Ensuite, ça va être... Et là, c'est un peu plus complexe. Ça va être d'identifier les réflexes qui vous poussent parfois à répondre de telle ou telle manière. Quels sont vos réflexes passés avec lesquels vous vous êtes construit qui vous poussent à répondre oui ou à répondre non dans certaines circonstances? Je m'explique. Peut-être que vous avez déjà observé que vous avez tendance à dire oui parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre, quitte à vous sacrifier. Ou alors que vous avez tendance à dire non, à souvent refuser des propositions pour vous éviter d'être déçu si ça ne fonctionne pas. Et ces mécanismes-là, parfois on les a pendant de nombreuses années sans en avoir réellement conscience. Et pour autant, à chaque fois que vous en avez conscience, eh bien, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est de vous placer du point de vue de la personne que vous aimeriez être dans le futur, quand vous serez la personne qui s'est défaite de ces mécanismes. Vous pouvez alors vous demander, ok, alors la personne que j'ai envie d'être, qui arrête de se sacrifier pour faire plaisir aux autres, comment est-ce qu'elle aborderait la situation? Et donc ce que vous allez faire là, c'est prendre de la distance avec la version de vous passée et vous projeter dans une version future de vous-même qui aura dépassé certains de vos obstacles. Donc je vous laisse explorer ça à une autre occasion. Ça nécessite bien sûr de savoir ce que vous aimeriez, qui vous aimeriez être plus tard. Et je vous invite pour ça à réécouter l'épisode qui s'appelle l'importance de la destination, que je vous remettrai dans les notes de l'épisode et qui traite justement de cette question, qu'est-ce que je veux pour moi dans le futur ? Et enfin, vous pouvez évaluer si ce qui vous préoccupe aujourd'hui aura toujours autant d'importance pour vous dans le futur, c'est-à-dire dans 3 heures, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans. Et donc, si vous ruminez depuis une semaine parce que vous avez par exemple terminé un message vocal sur le répondeur d'un client en disant « bisous », eh bien demandez-vous si cela aura toujours de l'importance pour vous dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans. Et je parie que ce questionnement vous aidera déjà à faire baisser un peu la tension. Voilà, donc vraiment cette perspective temporelle, c'est à la fois vous permettre de différer votre réponse, de pas toujours réagir immédiatement dans le présent, c'est de prendre conscience de la version de vous passé, la version de vous futur, et voir ce que fait l'un et ce que pourrait faire l'autre, et aussi de vous questionner sur le regard de la version de vous futur sur votre situation d'aujourd'hui et l'importance qu'elle accorde à ce qui est pour vous un problème. Voilà, je m'arrête ici, c'était mon dernier pilier. Vous avez maintenant une douzaine de techniques pour prendre du recul, notamment au travail, et je vous laisse bien sûr les adapter à votre propre vécu. Je résume simplement les grandes pistes. Eh bien, il y avait d'abord prendre de la distance physique pour pouvoir vous offrir un temps, un espace de réflexion au calme. Ensuite, le pilier 2 consiste à explorer vos pensées, vos émotions, vos sensations pour mieux en avoir conscience et ainsi prendre de la distance avec. Le troisième pilier consiste à intégrer le point de vue des autres dans votre prise de recul, déjà en ayant conscience qu'il y a d'autres points de vue que le vôtre, et ensuite en essayant le plus possible d'adopter ces différents points de vue et donc de mettre en perspective la situation que vous rencontrez. Ensuite, le pilier 4 qui consiste à prendre conscience de ces enjeux cachés pour éviter de corréler des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Et enfin, le dernier pilier consiste à intégrer la notion de temps dans votre réflexion, soit pour en disposer de plus, ou soit pour prendre de la hauteur sur ce qui aura encore de l'importance par la suite. Voilà, je vous invite vraiment à tester ce qui fonctionne pour vous et vous verrez qu'en faisant preuve d'agilité émotionnelle, c'est-à-dire en ouvrant cet espace entre vos émotions et vos réactions, vous pourrez renouer avec des émotions plus agréables comme la légèreté, la sérénité, voire le rire. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend du recul, on a bien souvent même tendance à faire preuve d'autodérision. Et ça, c'est un excellent signe qu'on a réussi à prendre cette distance. Voilà, je vous laisse tester tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui a fonctionné pour vous. Et vous retrouverez dans les notes de l'épisode les différentes ressources que j'ai citées. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Meilleur Allié. Au revoir.